Chers auditeurs de Radio Maria, c'est maintenant l'émission L'éducation, un métier d'éternité avec Inès de Franlieu. Inès de Franlieu, bonjour.
Bonjour Sandra.
Alors aujourd'hui, vous nous amenez à la montagne.
Absolument, c'est de saison. Voilà, eh bien je suis heureuse, comme tous les mois, de retrouver les chers auditeurs de Radio Maria. Et puis nous continuons un petit peu aujourd'hui sur cette thématique de l'éducation qui est si importante, toujours en lien avec une radio chrétienne, et c'est ce qui nous fait du bien, c'est de découvrir peut-être un peu toujours spécifiquement le rôle des parents chrétiens. Et c'est pour ça que je m'appuie assez souvent sur, j'associe l'éducation et puis ses spécificités liées au temps liturgique que nous vivons. Et donc, bien sûr, aujourd'hui, en ce moment, le temps liturgique, c'est celui du carême. Et c'est une bonne chose parce que figurez-vous que le carême est un temps absolument propice à l'éducation. Pourquoi ? Eh bien, parce que je vais commencer à parler donc de ce temps de carême en vous évoquant une image, comme nous l'a dit Sandra à l'instant, qui est celle du guide de montagne et qui pour moi est une image qui illustre vraiment profondément ce que la position que doit avoir le parent. Quand nous réfléchissons à cette image, nous réalisons que si nous partons en montagne, parce que nous savons que la montagne est belle, mais que nous ne la connaissons pas, nous allons prendre un guide de montagne. Ce guide, il va se positionner comment par rapport au groupe qui l'emmène. Le groupe n'a pas besoin d'être important pour partir à la montagne, mais en revanche, il est important qu'il parte avec ce guide. Je crois que chacun d'entre nous n'aurait pas de difficulté à répondre que le guide se positionne devant nous, non pas à côté de nous. On voit bien que dès que le sentier devient raide, cette position serait très mal appropriée. Et puis derrière nous, on ne voit pas du tout à quoi il pourrait servir. Donc devant nous, en effet, pour nous montrer le chemin. Et puis, vous allez réaliser que si ce guide de montagne se retourne régulièrement vers le groupe pour lui poser la question suivante. En fait, par quel chemin voulez-vous passer? Voulez-vous que nous allions à droite ou plutôt à gauche? Qu'est-ce qui, petit à petit, quel est le sentiment qui, petit à petit, va commencer à vous habiter? Peut-être pas à la première fois et à la première question, parce que peut-être que la première fois, eh bien, vous allez vous dire qu'il est fort sympathique, ce guide, de se retourner ainsi pour vous poser cette question. Mais petit à petit, si cette question revient un peu trop souvent, quel est le sentiment qui va commencer à vous habiter? Je crois que sans hésitation, vous me répondrez une forme d'inquiétude. Eh bien oui, évidemment. On commence à s'inquiéter parce qu'on se pose la question suivante. Mais en fait, est-ce que ce guide sait où il va? C'est-à-dire, est-ce qu'il connaît la montagne pour nous poser une telle question? Nous savons bien, quand même nous l'avons entendu dire, nous sentons bien que ce terrain, celui de la montagne, n'est pas un terrain fort sécurisant. Nous n'en connaissons pas tous les dangers, puisque ça n'est pas de nous le guide, mais nous pressentons évidemment que nous sommes dans un terrain qui n'est pas sans danger. Et donc, quand le guide de montagne passe son temps à se retourner, cette inquiétude commence à nous habiter. Quel est le deuxième sentiment qui va être corrélé à ce premier sentiment? C'est que petit à petit, nous allons même perdre confiance dans ce guide. Évidemment. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, l'éducation est très, très souvent celle non pas d'un guide de montagne qui montrerait le chemin de façon claire et donc sécurisante, mais cette position de celui qui semble ne pas connaître le chemin. Dans l'éducation, aujourd'hui, elle est très, très souvent parsemée de questions. Qu'est-ce que tu veux manger? Tu veux un petit filou? Tu veux un yaourt? Qu'est-ce que tu veux mettre comme vêtement? Tous les matins, je vois que pour les parents, c'est une galère que d'habiller les enfants qui disent « Non, je veux pas ça. Non, je veux ci. Ah, mais tu voulais ça. Ah, mais tu voudrais ci. » Et vous voyez que ce questionnement perpétuel en arrive aujourd'hui à un questionnement même existentiel qui est celui Veux-tu être un garçon ou veux-tu être une fille? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu vas choisir comme sexe? Ça devient très grave. Vous allez me dire, non, là, c'est un petit peu exagéré. Ah non, ça n'est pas du tout exagéré, puisque un enfant, hein, parce que quand on est en classe de 5e, on est encore un enfant, qui arrive à l'école en disant, en fait, je ne suis pas bien dans mon corps de fille, je voudrais être un garçon, donc ne m'appelez plus Sixtine, mais Stanislas, des professeurs, par bienveillance, parce que ce terme est terrible, par bienveillance, vont changer le prénom de l'enfant. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux être? Eh bien, cette éducation très, j'allais dire, faite de toutes ces interrogations, qu'est-ce que tu veux? C'est-à-dire, qui ne fait que tournicoter autour de l'émotion de l'enfant, devient terriblement anxiogène. Beaucoup de nos enfants, aujourd'hui, vont mal, ne se sentent pas bien, sans doute, peut-être, manquent-ils de direction? Manque-t-il de ce chemin clair? Eh bien, évidemment, la vie, pour un enfant, ben, c'est pas lui qui en connaît le chemin, c'est bien l'adulte. Beaucoup de nos pédagogies aujourd'hui sont tournées vers l'enfant, c'est-à-dire que à l'école, eh bien, les classes, et je le constate régulièrement dans les classes, les tables sont en îlot, c'est-à-dire sont tournées les unes vers les autres. Les enfants se regardent et ne regardent donc plus en direction du professeur qui est le sachant. Non, le savoir, figurez-vous, c'est une nouvelle assez étonnante, mais le savoir vient de l'enfant. Alors, ça pourrait être juste étonnant, c'est plus grave que ça. Puisque, en fait, le sentiment qui envahit petit à petit, même si l'enfant sera incapable de mettre des mots dessus, est bien celui de l'inquiétude, de cette confusion qui vient du fait que le savoir viendrait de l'enfant. C'est l'enfant qui sait ce qui est bon pour lui à mettre, à porter comme vêtement, qui sait ce qui est bon pour lui de manger. Vous voyez, vous n'avez pas besoin d'aller loin, vous faites quelques courses et vous tendez l'oreille et vous voyez qu'indéfiniment les parents proposent aux enfants, ben, qu'est-ce que tu veux qu'on achète? Voilà. En fait, cette question permanente, qui semble au début extrêmement gentille, eh bien, va mettre l'enfant en situation d'anxiété de plus en plus permanente. Vous voyez, il ne s'agit pas d'être gentil, il s'agit d'être vrai. Hein, comme nous disait ce coach en parentalité, Thomas Dansbourg, il a absolument raison, il ne s'agit pas d'être gentil, il s'agit d'être vrai. Et pour être vrai, encore faut-il connaître la vérité de ce chemin de la vie. Alors, on n'en connaît pas tout, mais en tous les cas, même si de fait un guide de montagne peut parfois se tromper, normalement, il a des connaissances qui lui permettent d'être ce guide. Vous voyez que j'ai associé dans la thématique de ce jour, le guide de montagne au carême. Oui, c'est le temps que nous avons à vivre aujourd'hui en tant que chrétiens. Alors comment le parent chrétien, c'est-à-dire ce guide de montagne, un guide de montagne chrétien, quel est son rôle justement dans ce temps du carême? Et voilà, j'aime de nouveau associer les deux thématiques parce que vous voyez que cette éducation tellement importante qui est celle de la volonté, puisque je l'avais déjà abordé le mois précédent, j'ai montré à quel point il nous incombait à nous, parents, de développer la volonté de nos enfants. Puisque la volonté, c'est comme cette énergie qui nous permettra de mettre en action ce que l'esprit a décidé. Je crois, pour accompagner pas mal de jeunes en difficulté, observer que on ne peut pas dire qu'aujourd'hui les jeunes n'ont plus d'envie ou plus de désir, plus de projet, mais ils ont malheureusement perdu ce que j'appelle la niaque. Pas perdu, parce qu'on ne perd pas la niaque, mais on n'a pas développé en eux cette capacité à tenir dans l'effort, à tenir dans la décision prise, on n'a pas développé chez eux cette capacité qui est celle de la volonté. Oui, la volonté ne tombera jamais tout cuit dans le bec d'un enfant. Elle n'arrive pas tout d'un coup à 18 ans. Or, vous le savez, aimer, c'est vouloir le bien de l'autre. Ça veut dire que même dans l'amour, nous aurons besoin de volonté. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Vous savez combien aujourd'hui la société, chacun de nous est souvent très seul. Les couples ne tiennent pas dans l'amour. Eh bien, je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Et vous voyez que dans l'éducation chrétienne, là encore, nous nous sommes comportés et nous nous comportons parfois comme ces guides qui se retournent. Tu as envie de dire ta prière ou pas ? Ben, mon jeune, il n'a plus envie d'aller à la messe. Voilà, comme si c'était une fatalité. Avons-nous été et sommes-nous ces guides de montagne qui disent « Oui, c'est difficile cette ascension. Oui, je le reconnais, mais on peut y arriver, mais on ne va pas lâcher, mais on est capable. Et je vais vous donner les clés pour continuer ce chemin difficile. » Et donc, cette éducation à la volonté qui est extrêmement importante et qui est, comme je vous le disais, mise à mal, sans doute aujourd'hui parce que nous sommes dans une société de consommation et que nos enfants ont vraiment facilement tout ce dont ils ont envie. Beaucoup de choses sont monnayées. Si tu, alors tu. Si tu te comportes mieux, si tu me rends service, alors je te donnerai ce paquet Pokémon. Vous voyez ? Comme si... Voilà, les choses s'achetaient indéfiniment et même ce qui est du développement de l'ordre, j'allais dire, du cœur, de la relation à l'autre, savoir rendre service. On ne rend pas service uniquement pour obtenir quelque chose, mais sans doute pour expérimenter, et c'est ça que les parents doivent comprendre, expérimenter la joie du don. Parce que rendre service, eh bien, petit à petit, l'enfant va pouvoir expérimenter qu'il est plus heureux que de tourner autour de son propre nombril. Mais ça, il ne peut pas le savoir à l'avance. Voyez ? Malheureusement, le péché originel nous a coupé de ce lien, nous a coupé de l'amour. Et donc, l'enfant a du mal, ne peut pas le savoir. C'est nous, l'adulte, qui pouvons lui faire découvrir. Donc, cette volonté est à développer. Et elle passe par des choses toutes simples, évidemment, qui est de dire, ben voilà, pour le goûter, il y a 2 chocos, pas 3, il y a 2, pour des raisons très claires, que on va peut-être dîner quand même rapidement, que 2, c'est bien, voilà, on n'a pas besoin de toujours plus, et que lorsque l'enfant fait une colère parce qu'il veut son 3e choco, ce qui est légitime, il joue, j'allais dire, son rôle d'enfant, qui est de chercher le chemin de la vie, eh bien, le parent à se comporter comme ce guide de montagne qui sait que pour que l'enfant puisse devenir un adulte heureux, il faut qu'il ait expérimenté que l'on peut être heureux malgré le manque, malgré la déception. Voyez ? Et que cette frustration, elle est aussi là pour développer cette volonté. Et vous voyez que ce guide de montagne, j'aime prendre l'exemple de la montagne parce que justement, peut-être que le seul lieu dans lequel il reste aujourd'hui la possibilité plus facilement de développer la volonté, c'est justement ces lieux sportifs. Et donc un enfant, quand on a commencé une ascension et qu'on lui dit « Non, on ne fait pas de pause, là on a, en fait, la pause on la fera à l'heure du déjeuner, je sais qu'il y a un coin qui est très joli, un petit lac un peu plus haut avec un banc, on pourra s'installer pour le déjeuner, ce n'est pas encore le temps du déjeuner ». Tu es capable de continuer, de faire un effort, et bien arriver à ce lieu du déjeuner, l'enfant, et bien il est fier de lui. Et ses parents se retournent en lui disant « Je suis fier de toi, c'est beau de voir que tu as fourni un effort supplémentaire, que tu as développé, et c'est ça que nous savons, nous les parents, que tu as développé ta capacité à la volonté. Et c'est ce qui te permettra dans la vie, de mettre en action ce que tu as décidé. Hein ? J'ai décidé de ne pas fumer, j'ai compris qu'il n'était pas bon à la santé, qu'il n'était pas bon de fumer, parce que ça nous rendra dépendants. Et bien, quand l'adolescent sera confronté à des amis qui se mettent tous à fumer, il aura cette capacité de tenir dans sa décision. C'est ça la volonté. Alors, par rapport au carême, que voulez-vous ? Que voulais-je dire ? Bien, vous voyez, le carême est un temps de privation. Alors évidemment, pas du tout uniquement par les bienfaits que nous découvrons de plus en plus par les nutritionnistes et toujours ce monde extrêmement tourné autour de l'hygiène qui est importante, certes, mais qui ne fait pas toute la vie et en tous les cas certainement pas la vie spirituelle, mais peut-être une hygiène spirituelle et on va la découvrir parce que c'est ça qui nous importe. Ce temps de privation, il est fait pour que nous, les chrétiens, nous soyons tous un peu des Simons de Cyrène. Qu'il est beau de retrouver la pratique du chemin de croix. Beaucoup de paroisses ont abandonné cette pratique du chemin de croix et on a du mal, nous, les chrétiens, à trouver des églises où sera prié le chemin de croix, en particulier les vendredis de carême. Eh bien, vous savez qu'il y a cette station, celle de Simon de Cyrène. Moi, c'est une station qui m'a beaucoup aidée en tant que parent chrétien. Vous voyez, Simon de Cyrène, c'est ce chrétien. Et c'est vrai, quand on lit les évangiles, il n'a pas choisi librement d'aller aider le Christ, mais il a découvert que d'avoir été forcé par les soldats qui entouraient le Christ, avoir été forcé à aider le Christ à porter sa croix, il a découvert la joie d'avoir aidé le Seigneur. Eh bien, nous les guides de montagne, nous les parents, nous devons faire découvrir à nos enfants la joie d'être un petit Simon de Cyrène, de, au travers, par nos efforts, participer au chemin de croix du Christ. Voyez, non pas que le Christ aurait besoin de nous pour sauver le monde, bien sûr que non. Bien sûr que c'est toujours nous qui avons besoin d'être sauvés par le Christ. Mais, eh bien, nous pouvons apporter notre collaboration. Ça veut dire ce oui à être sauvé par le Christ. Et donc, nous allons être ces Simons de Cyrène. Pourquoi faire participer nos enfants à ces privations? Pour découvrir la joie de la résurrection. Vous voyez, j'aime beaucoup dire que lorsque nos enfants, voilà, à qui nous donnons le matin au petit déjeuner du Nutella tous les jours, eh bien, ce Nutella a le goût de l'école. En revanche, quand nous ne donnons pas ce Nutella, mais qu'au contraire, il fait partie, eh bien, du rituel du jour de Pâques, c'est-à-dire que ce pot de Nutella, il arrive sur la table que le jour de Pâques, eh bien, ce Nutella, il a le goût de l'Alléluia. Et voyez que toute la liturgie chrétienne, eh bien, se dépouille elle aussi pour pouvoir redécouvrir la joie de la résurrection. Voilà. Les églises n'ont plus, voilà, les autels ne sont plus fleuris le dimanche. Normalement, il n'y a plus d'orgue. On chante moins. Voilà, tous ces signes qui nous aident, hein, à entrer dans une liturgie du temps que nous avons à vivre, voilà, nous sommes des êtres incarnés, les choses ne peuvent pas, voilà, comment je vais dire, être vécues profondément, spirituellement, si elles ne sont pas incarnées. Nous sommes des êtres incarnés et donc il faut que nous ayons des signes qui vont nous permettre d'entrer dans les temps liturgiques. Et nos enfants, pour avoir une foi qui va devenir une foi adulte, eh bien, cette foi adulte ne pourra justement être adulte que si, dans l'enfance, elle a été guidée par le guide qui, lui, ne laisse pas au choix. Qu'est-ce que je veux dire par là quand il s'agit de ces efforts de carême? Eh bien, nous pouvons encore nous appuyer aussi par le fait que la famille est une petite église domestique. Je crois que cette expression, je l'ai déjà utilisée lors d'une émission. Eh bien, nous avons à vivre liturgiquement dans la famille, hein, comme une petite église, une église domestique. Et donc, il ne s'agit pas simplement de dire aux enfants, qu'est-ce que tu vas faire pour le carême pour transformer ton cœur, mais proposer des efforts familiaux. Et voyez, justement, je crois que tout ce qui est de l'ordre de la privation, et cette privation, eh bien, c'est une privation déjà matérielle, qui passe par la nourriture, bien sûr, c'est les premières privations. Ne les dédaignons pas, elles ont toute leur valeur. Il peut y avoir d'autres privations. Et voyez que si cette église domestique décide ensemble, et c'est vrai qu'il est important qu'il y ait adhésion de l'enfant, mais cette adhésion, ne soyons pas utopiques, elle passe par une parole qui va être claire. Ferme, il faut que le guide de montagne, il ait bien son objectif. Il sache quel est le refuge vers lequel il marche. Et donc, il va faire adhérer son groupe. Mais il y a des moments où le groupe a envie de rechigner. Et c'est lui qui, par son enthousiasme à connaître le chemin, à savoir quelle sera la joie d'arriver au but, va pouvoir continuer d'entraîner, va pouvoir petit à petit avoir l'adhésion et faire continuer le groupe alors qu'il a faim, alors qu'il a mal aux pieds, alors qu'il a envie de faire une pause. Si nous, parents, ne savons pas qu'il est bon pour l'enfant d'expérimenter la privation, d'être un Simon de Cyrène, pour pouvoir découvrir et jouir du bon goût de la fête de Pâques, qui va passer, évidemment, par ce bon goût d'un repas de fête, eh bien, on pourra goûter ce repas de fête que si on a eu ces privations de la nourriture. Aujourd'hui, on commence enfin à nous redire que ces privations nous permettent de mieux retrouver le vrai bien qu'est le Christ, qu'est Dieu dans nos vies. Mais il y a eu tant d'années, où les prêtres ne nous le disaient plus. Ils disaient simplement, il faut plus d'aumône. Ben oui, mais l'aumône, elle va venir de la privation. Vous voyez ? Il faut plus aimer Jésus. Oui, mais ça passe par tous ces petits efforts. Ceux de Simon de Cyrène qui a porté la croix de Jésus. Et donc, on pourrait faire tout simplement, et je dis bien tout simplement, et vous allez voir pourtant combien c'est difficile, proposer, j'allais dire imposer, parce que cette proposition, elle doit être claire et ferme pour que l'enfant goûte la joie. Aucun enfant ne peut désirer de lui-même faire un effort. C'est difficile et il faut le reconnaître. Mais tu en es capable et tu en goûteras la joie. Eh bien, faire cet effort, par exemple, en se disant, on va enlever le beurre, la confiture, le Nutella peut-être, si on a du Nutella à la maison, le matin au petit déjeuner. On pourrait prendre du pain sec et la même façon au goûter. Je vous garantis que pour la santé physique, il n'y a aucune crainte à avoir. En revanche, en fait, c'est un effort difficile à faire parce que le carême, c'est long. C'est vrai, c'est long. Mais alors, quelle joie à Pâques, voyez, quelle joie le dimanche déjà. Et voyez que c'est beau de voir que les dimanches de carême, le dimanche étant le jour du Seigneur, on va avoir un petit déjeuner où on retrouvera ce beurre et cette confiture. Oui, je vous propose vraiment cet effort de carême en famille, en église domestique, quelle joie d'offrir tout cela. C'est difficile, je vous le garantis, c'est vrai, je l'ai expérimenté, mais c'est vraiment vivre ensemble ce temps du carême. Rien n'empêchera qu'avec chaque enfant, en tant que guide de montagne, on réfléchisse plus personnellement avec chacun de nos enfants à d'autres efforts qui correspondent à quelque chose qui lui est plus particulier pour cet enfant, cet adolescent qui est déjà un petit peu pris un peu trop souvent par ses écrans. Eh bien, comment on va le guider? Comment on va lui faire une proposition, là encore peut-être un peu ferme, de jeûner de son écran, de jeûner de son portable? Voilà, peut-être le guider un petit peu dans une difficulté avec un frère, une sœur, dans son comportement. Voilà, on a du mal à se dire des chauds doudous, lui proposer. Voilà. Et lui proposer, et bien sûr, il y a des choses qui resteront de la décision personnelle de chacun. Plus l'enfant est petit, plus il a besoin d'être guidé. Mais attention, nos adolescents ne sont pas encore des adultes. Il ne s'agit pas d'être intrusif dans sa vie de foi. Bien sûr, mais il s'agit de rester à notre position et que ça n'est pas facile d'être des guides, oui, de ne pas démissionner de notre rôle, de ne pas se retrouver comme des copains de nos enfants, mais bien comme des guides. Vous voyez, le copain, c'est celui qui se met à côté. Combien de fois des parents me disent « j'accompagne mon enfant ». Ah non, il ne s'agit pas d'accompagner, il s'agit de guider, c'est différent. Voyez, il s'agit de guider dans la foi. Et oui, souvenez-vous, au baptême de notre enfant, on a posé la question aux parrains, aux marraines, mais aux parents aussi. Voilà, êtes-vous prêt à éduquer votre enfant dans la foi? Oui, à les éduquer dans la foi. Même si, bien sûr, ce baptême est un don et que l'enfant a reçu la vie divine en lui, malheureusement, nous avons été blessés par le péché originel, dont il reste une trace malgré le baptême. Le baptême fait entrer la vie divine, mais il reste la trace du péché originel. Et donc, toute cette vie de foi reste évidemment difficile. Il faut être enseigné, il faut faire du catéchisme pour connaître Dieu. Comment pouvons-nous aimer une personne sans le connaître? Et vous voyez que le kérygme est une urgence, c'est-à-dire que l'enfant, eh bien, il faut l'enseigner que Jésus vient nous sauver à Pâques. Beaucoup plus facile, évidemment, de parler de Noël. Vous savez combien ce temps est facile à vivre, même si lorsque notre émission de l'Avent, j'avais montré qu'il fallait quand même, évidemment, commencer à faire goûter la joie de l'attente. Mais il y a quelque chose de spécifique au temps du carême qui est la privation. Au-delà de l'attente, il y a même une privation matérielle qui doit être concrétisée pour que notre enfant découvre la passion de Jésus. Cette passion qui est une passion d'amour, parce qu'il t'a aimé depuis toujours, il a voulu te sauver, toi mon enfant, moi ta maman. Et pour cela, nous allons être des Simons de Cyrène et accepter de porter avec lui cette croix. Vous voyez? Ces privations sont importantes parce que c'est ainsi que, en tant que incarnés, nous allons pouvoir, voilà, goûter, dans le sens un peu négatif, la privation qui nous permettra de goûter la présence de Dieu. Et voyez, je disais aux enfants, à chaque fois que voilà, vous renoncez au beurre sur votre tartine, à chaque fois que vous renoncez à la confiture sur votre tartine, évidemment, vous pouvez dire, Jésus, je te l'offre parce que je t'aime. Jésus, je te l'offre. Vous verrez que bien souvent, c'est l'adulte qui observe que l'enfant galope devant. Galope sur ce chemin d'amour. C'est lui qui parfois nous enseigne, alors qu'il a rechigné, alors qu'il a dit « Mais maman, c'est beaucoup trop difficile ce que tu demandes. » Parce qu'il entre dans ce mouvement d'amour pour Jésus. Lui qui est si proche, parfois de son baptême, enfin souvent plus proche que l'adulte, eh bien il galope. Il galope devant Jésus. Et parfois, vous qui craignez en vous disant « Il va pas y arriver », eh bien c'est nous l'adulte qui avons beaucoup plus de mal. Et nous allons nous émerveiller de cet enfant qui, non seulement offre ses tartines, c'est-à-dire son beurre et son pain, mais au moment du yaourt, vous dit « Bah non, maman, je ne vais pas mettre de sucre, comme ça je l'offre à Jésus. » Que c'est beau de voir toutes ces petites offrandes qui vont être que l'enfant va même aussi décider. Et parce qu'il a compris, grâce à vous, il ne pourra pas le deviner si vous ne lui avez pas proposé de façon claire, dans cet esprit chrétien de Simon de Cyrène, il ne pourra pas le découvrir. Mais parce que, grâce au guide de montagne, il découvre la beauté de la montagne malgré la difficulté de cette ascension, alors il va vous émerveiller par sa capacité à y répondre avec enthousiasme. Et le jour de Pâques, nous vivrons ensemble une fête extraordinaire, parce que l'enfant pourra, en ayant expérimenté ses efforts, en ayant expérimenté ce qu'a fait Simon de Cyrène en portant la croix, il va goûter la joie de l'offrande. Il va goûter une joie spirituelle à Pâques. Et c'est ça, et c'est cette saveur qu'il aura goûtée dans l'enfance qui va lui permettre petit à petit de devenir adulte dans sa foi. C'est-à-dire, eh bien évidemment, de se dire « oui, je me souviens, oui, j'ai déjà vécu, enfant, la joie d'être chrétien, alors je poursuis. Oui, ce que j'ai entendu comme parole de mes parents, oui, ce que j'ai vécu en famille, parce que lorsque j'étais enfant, maintenant moi, en tant qu'adulte, je décide de le vivre. Oui, et ce sera ça la profession de foi. » J'avoue qu'on pourrait en rediscuter, mais moi, je ne comprends pas comment la profession de foi pourrait être avant d'avoir reçu la confirmation. Et donc, en tant que chrétien adulte, je décide, voilà, de professer ma foi. Mais je ne pourrais la professer librement, voilà, que parce que, enfant, j'ai découvert grâce à mes parents qui m'ont guidé sur ce chemin de la foi, parfois fermement. Oui, ce n'était pas au choix. C'est alors que j'ai pu découvrir, goûter la joie de l'effort, la joie d'être un Simon de Cyrène, la joie de participer par ma petite action à ce libre oui, voyez, d'être chrétien et de me laisser sauver par le Christ. Nous sommes des êtres incarnés. Tout cela a en effet besoin d'être incarné dans nos vies. Le carême est un temps de privation. Ne soyons pas que intellectuels, il faut le vivre dans son corps, dans sa décision prise dans le cœur pour participer à la croix. Et alors simplement, nous pourrons vraiment vivre de la joie du ressuscité. Ne privons pas nos enfants de cette vraie joie, seuls nous, l'adulte qui connaissons, alors nous pouvons guider fermement l'enfant. Voyez que le guide de montagne, qui se laisse influencer par son groupe qui dit « j'en peux plus, on n'a pas envie, on a mal aux pieds », et qui dit « bon bah d'accord, on ne le fait pas, c'est trop dur », au début, qu'est-ce qui va se passer? Le groupe il vous dit « ah bah vraiment, on a de la chance, on a un guide de montagne super sympa ». L'autre groupe qui passe, qui n'a pas pu faire sa pause, en voyant qu'il y a un autre groupe qui fait la pause, ils se disent « ils ont de la chance, ceux-là, ils ont un guide sympa. Nous, il est vraiment trop dur. » Et puis le soir, arrivé au refuge, l'orage arrive, l'orage éclate. L'autre groupe n'est pas arrivé au refuge. Eh bien, celui qui, tous ces, si je suis dans mon refuge en voyant la tempête, alors je me retourne vers le guide et je lui dis « merci, j'ai confiance en toi ». L'autre groupe va dire « bah maintenant on est trempé, on n'a jamais réussi à aller au but, je n'ai pas confiance dans ce guide, on n'a jamais réussi ». Et on va regretter celui qui aurait pu nous guider plus fermement, vous voyez. Ça ne veut pas du tout dire que dans l'éducation, un enfant ne peut pas suggérer une idée à ses parents. Parfois, le guide dira « mais oui, bien sûr, bonne idée, on a le temps, il fait beau, on va faire une pause, je n'avais pas réalisé que vous étiez fatigué. » Voilà. Mais ça passe par son propre clip, j'allais dire, par sa propre connaissance. Voilà, quand on dit « d'accord, arrêtez-vous, on n'est plus des guides. » Ok, c'est la fête de Saint-Joseph. Ah, on va faire la fête, on va donc manifester notre joie de fêter Saint-Joseph. On fait une petite pause dans notre carême. C'est pas la mi-carême. Qu'est-ce que ça veut dire que la mi-carême? Bien souvent, quand on fête la mi-carême, on n'a même pas commencé son carême. Oui, il n'y a pas de vraie joie, c'est factice tout ça. En revanche, on fait un vrai carême. 25 mars, l'Annonciation, pause de carême pour se réjouir de ce oui de Marie qui, par ce oui, a permis que le Sauveur vienne au monde faire son œuvre de salut Alors là, on fait une pause de carême. Voilà, toutes nos joies deviennent des joies spirituelles et nos enfants vont vivre de façon incarnée la foi et la joie de la foi. Ne fêtez pas la mi-carême avec vos enfants, pensez aux fêtes religieuses, d'abord le 18 mars, fête de Saint-Joseph, le 25 mars. Ah, c'est même plus que la mi-carême! On a plus de temps de pause pour pouvoir de nouveau recommencer, reprendre souffle et continuer à porter la croix comme des petits Simons de Cyrène.
Chers auditeurs de Radio Maria, vous écoutez l'émission L'éducation, un métier d'éternité avec Inès de Franlieu. Notre thème d'aujourd'hui, le guide de montagne et le carême. Inès de Franlieu, quand vous expliquiez que la société actuelle pousse finalement les parents à demander leur avis aux enfants sur à peu près tout et n'importe quoi, ça m'a fait penser à un acteur américain, Tom Cruise, qui est membre d'une secte qui s'appelle l'Église de Scientologie. Et cette secte a pour principe que les enfants doivent décider par eux-mêmes ce qu'ils veulent, ce qui leur convient. Et un journaliste a interrogé Tom Cruise sur ce mode d'éducation. Et Tom Cruise, un petit peu gêné, avait répondu: ah ben, j'aimerais bien être à la place de mes enfants.
Ah oui. Mais vous savez, cette façon de voir l'éducation est très tentante. Elle est très tentante parce qu'elle permet beaucoup de démissions. Vous voyez? Elle est très tentante parce que, dans un premier temps, et je crois que c'est toujours ça l'erreur, c'est de penser que. Enfin, l'erreur, c'est de s'attacher à, comment dire, à la conséquence immédiate. C'est-à-dire que quand vous donnez ce troisième choco qui n'est pas nécessaire, et qui même peut-être, quand on y réfléchit, même si ce n'est pas pour moi le sujet principal, mais n'est pas bon à la santé, dans un premier temps, vous avez la paix. L'enfant est content, les parents n'ont pas à subir de colère, c'est dans un premier temps beaucoup plus facile et donc beaucoup plus agréable. Et on peut se dire, évidemment, pourquoi s'embêter dans la vie? Eh bien, on ne peut répondre à cette question que en se projetant dans l'avenir, voyez, et en ayant le courage des constats. Bien souvent, justement, il n'y a plus personne pour faire les constats. Et quand un jeune souffre, voyez, d'une incapacité à décider, quand un jeune souffre, en fait, de ne pas avoir de volonté, quand un jeune souffre de cette, j'allais dire, angoisse presque existentielle, ne comprenant pas pourquoi il ne va pas bien, et que, eh bien, on n'a pas le courage, voyez, de dire: j'en suis un peu responsable. C'est-à-dire, quand on n'a pas le courage de dire: l'adulte qu'il est devenu n'est pas un vrai adulte. Mon enfant, qui est passé un âge qui devrait être un âge d'adulte, ne va pas bien. Qu'est-ce qui a pu se passer? Eh bien, on reste, oui, en effet, dans des formes de constat, mais on n'en cherche jamais les causes profondes parce qu'elles deviennent dérangeantes, parce qu'elles nous remettent en question. Je vais vous prendre un tout petit exemple, pardonnez-moi, mais familial. Je me souviens, mes deux aînés étant très rapprochés, j'avais un petit peu une poussette double, et puis je partais me promener, et mon aîné, qui quand même était déjà assez tonique et marchait, n'était pas dans la poussette. Et puis, sortant de l'immeuble, j'avais donc une porte vitrée qui s'ouvrait assez largement, et une personne plus âgée, je ris parce qu'elle devait avoir l'âge que j'ai aujourd'hui. Donc, elle me semblait déjà bien âgée et vieille, arrive, et donc je demande à ce petit garçon de 18 mois de reculer pour laisser passer cette dame. Et cette dame d'un certain âge, en fait, se met à rire et se moque un petit peu de ma façon de faire en disant: mais madame, écoutez, c'est un petit, laissez-le, pourquoi vous lui dites ça, etc. Et moi, vraiment, j'exige que mon enfant recule pour laisser passer la dame. Et je lui ai dit, écoutez, madame, en fait, vous voyez, je pense que voilà, quand les jeunes se comportent de façon irrespectueuse avec les adultes, à l'âge de 14-15 ans, peut-être êtes-vous la première à dire ces jeunes sont odieux. Et on finit par les accuser de cette mauvaise éducation, de se comporter avec aucune courtoisie, de sachant plus laisser la place à une personne âgée, etc. Eh bien, je lui dis, voyez, ces jeunes qui sans doute vous exaspèrent dans leur comportement, eh bien, ils sont le fruit tout simplement de l'éducation qu'ils ont reçue. Sans doute n'en sont-ils pas très responsables. En revanche, ce sont les parents qui en sont responsables. Et je lui ai dit, alors s'il vous plaît, madame, laissez-moi éduquer mon enfant. Voilà. Vous voyez, c'est qu'on va faire des constats en se plaignant de ce qu'est devenu le monde, en se plaignant de nos jeunes, mais on n'a pas le courage d'aller réfléchir. Qu'est-ce qui a fait ces fruits-là? D'où viennent ces fruits-là? Dans un agriculteur, toute sa vie, il se pose cette question. Vous voyez, ce que j'ai fait en hiver, ce que j'ai fait au printemps, a-t-il porté des bons fruits? Et voyez, lui, comme nous, en tant qu'éducateurs, nous n'avons malheureusement pas immédiatement les fruits de ce que nous faisons. Et en plus dans l'éducation, parfois, les fruits à court terme nous semblent sucrés et doux. Mais on n'a pas voulu aller regarder les fruits et donc les causes des fruits à long terme. Donc, le seul objectif important pour l'adulte, c'est ce qu'il veut obtenir à long terme et non pas à court terme. Souvenez-vous, Sandra, c'est ce que j'avais montré comme image que j'avais dit tout à fait au début des émissions sur l'éducation où je vous avais dit, eh bien, l'éducation, elle est à 20 ans, c'est-à-dire qu'on en a pour 20 ans, nous les parents, afin de faire de notre enfant un adulte. Et j'avais dit, l'objectif de la nounou, il est à court terme. On veut que la journée se passe bien et c'est légitime. Nous, ce n'est pas ça notre objectif. L'objectif, c'est d'en faire un adulte et comme nous sommes à Radio Maria, même un adulte chrétien. C'est ça notre objectif. Donc il ne faut pas se tromper de chemin.
Alors, nous avons reçu un message. Je ne sais pas si vous aurez le temps d'y répondre. Il nous reste à peine 2 petites minutes. Voici ce message. Il s'agit d'Anne qui nous écrit ceci. Merci beaucoup à Inès de Franlieu pour son intervention. Une petite question. Quand on est grand-parent, est-ce qu'on peut intervenir dans l'éducation des petits-enfants? Être un guide de montagne, c'est une mission difficile aujourd'hui. Merci de tout cœur. Et c'est signé Anne.
Alors, chère Anne, oui, je crois qu'on peut l'être à une distance un tout petit peu différente, bien sûr, mais quand beaucoup de grands-parents ont souvent leurs petits-enfants chez eux, sans les parents, et ils peuvent, avec délicatesse, voilà, être un peu ce guide de montagne. Ne baissons pas les bras. Peut-être évidemment, quelquefois, dans la mesure du possible, en parler avec les parents. Quand les parents sont là et qu'ils ne veulent pas faire autrement, on ne peut pas beaucoup faire autrement. Mais on peut tenter une parole, au moins avec les parents. Quand on a nos enfants tout seuls, oh, vous savez, nos enfants, ça leur fait tellement bien que d'être dans cette sécurité. Qui dit, voilà, c'est maintenant qu'on range les jeux. Non, voilà, tu t'habilles maintenant. Après, il y a le petit déjeuner. Ben non, voilà. Et je pourrais revenir dessus parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je crois que combien d'adultes d'aujourd'hui, de jeunes adultes, disent, heureusement que j'ai eu mes grands-parents. C'est eux qui m'ont guidée. Voilà. Donc, on peut encore faire à notre place de grands-parents, bien sûr, mais sans démission non plus. Parfois, ce sont des grands-parents qui viennent détricoter ce que font les parents en arrivant avec plein de bonbons, en disant « Ah ben, il veut voir un dessin animé, je le mets devant un dessin animé. » Voyez? Alors, soyons chacun bien à notre place et soyons, en tant qu'adultes, adultes chrétiens, de bons chrétiens qui emmènent le jeune et l'enfant sur ce chemin exigeant, mais tellement sécurisant. Voilà, j'espère avoir répondu un petit peu à votre question.
Merci beaucoup Inès de Franlieu. Donc nous arrivons au terme de cette émission et nous vous retrouverons donc le mois prochain pour continuer à découvrir l'éducation, un métier d'éternité.
Merci beaucoup.
Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission L'éducation, un métier d'éternité avec Inès de Franlieu. Notre thème d'aujourd'hui, le guide de montagne et le carême. Vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.